Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. À partir de cette semaine, et pour les trois prochaines à venir, je suis ravie de vous présenter des artisans français aux côtés du Printemps du Goût pour célébrer les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain et mettre en avant leur savoir-faire. Aujourd'hui, c'est Marie-Lou que j'ai l'honneur de recevoir, la cofondatrice du blog de cuisine Gratiné et à la tête de Nomi, une marque d'épices pour relever les plats du quotidien. Avec Marie-Lou, on aborde le sujet de la reconversion et comment passer à un métier totalement différent par passion, comment développer un projet en side hustle, c'est-à-dire en parallèle d'une autre activité principale, pour se former ou tout simplement pour être sûr que cela nous plaît, et comment développer sa boîte par la suite. Marie-Lou est aussi la première entrepreneure que je reçois qui a cofondé son entreprise avec son mari et qui travaille désormais main dans la main avec lui. Elle nous explique d'où vient cette volonté et comment cela se passe au quotidien, et surtout comment trouver l'équilibre entre vie pro et vie perso. Si le podcast vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser et de laisser un petit avis sur Apple Podcasts. Cela ne prend que quelques secondes et c'est ce qui permet le plus de me soutenir. Un grand merci à vous et je vous retrouve tout de suite pour le tout nouvel épisode d'In Power. Bon, du coup, j'ai lancé le podcast.
Très bien.
Donc, je suis en présence de Marie-Lou. Marie-Lou, je vais te laisser te présenter parce que, comme je n'aime pas mettre des étiquettes sur les personnes et qu'en plus, je trouve que tu as un profil assez ce que j'appelle slasher, tu vas pouvoir te définir ou en tout cas te présenter comme tu le souhaites.
Ok, donc je vais pouvoir slasher.
Ouais.
Merci de me recevoir. Donc, moi, je suis Marie-Lou. Je suis cofondatrice de Nomi, Le goût des épices. Je suis également auteure culinaire. Je viens de sortir un livre avec mon mari, qui est mon associé sur à peu près tous mes projets, chez Marabout, donc c'est le bar à épices. Et je suis également blogueuse, enfin je tiens un blog culinaire.
Ouais, voilà. Ok, bah alors du coup moi la première question qui me vient, parce que je crois que c'est la première fois que je reçois quelqu'un sur le podcast qui travaille de manière aussi intimement liée avec son mari, enfin son partenaire en tout cas. Est-ce que tout a commencé avec ton mari? Parce que j'imagine que ça a commencé avec ton blog et que peut-être après des portes sont ouvertes ou en tout cas que des projets en sont sortis, mais tu me dis si ça a été différent. Est-ce que tu as commencé seul et du coup il a rejoint l'aventure? Enfin, comment ça s'est fait?
Bon, tout a commencé avec lui en fait, et tout a commencé il y a 10 ans, enfin quasiment. Nous on est ensemble depuis 9 ans. Et je pense que dès le départ, on a commencé à s'intéresser à la cuisine, à une nouvelle. Nouvelle cuisine, je pense, à l'arrivée de la bistronomie, à l'arrivée aussi des vins naturels, biodynamiques. Et on s'est intéressé à tout ce qui touchait de près ou de loin à la cuisine. Et ça, dès le début, ça a nourri un peu notre histoire. Et ouais, on a toujours tout fait ensemble et tout imaginé ensemble.
Ouais.
Ouais.
Et quand est-ce que vous avez lancé le blog et quelle a été peut-être la réflexion derrière? Est-ce que vous souhaitiez apporter quelque chose de nouveau? Est-ce que vous aviez déjà cette appétence pour l'écriture ou comment ça s'est fait?
En fait, on était toujours à la recherche de nouvelles adresses. Donc on a testé énormément de restos. On cuisine toujours beaucoup. Donc je pense que tout était un peu lié dans le sens où on avait envie de raconter un petit peu nos parcours culinaires, nos aventures culinaires. Et en même temps, à côté de ça, Nomi était déjà en train de se construire.
Okay.
Et on trouvait que c'était intéressant d'avoir un double dialogue, de pouvoir aussi écrire et partager autour de ce qui nous plaisait, de la cuisine, voir aussi s'il y avait une appétence, s'il y avait quelque chose derrière. Il y avait des lecteurs qui allaient trouver nos recettes intéressantes, si peut-être les épices vues avec notre regard pouvaient les intéresser. Donc tout était plus ou moins lié.
D'accord. Et à l'époque, tu travaillais dans un autre secteur ou est-ce que t'as commencé en souhaitant vivre, on va dire, de ton blog et de Nomi?
Non, alors tous les deux, que ce soit Charles ou moi, on a eu on avait des parcours complètement différents. Moi, j'étais plus ou moins dans le business et la communication, donc dans le monde des arts global, on va dire. Vu que j'ai fait une fac de ciné, j'ai été en galerie, j'ai bossé pour des artistes et des musées, pour un groupe de presse archi. Donc j'étais plutôt dans ce domaine-là. Et les épices et la cuisine, c'était aussi un patrimoine familial. Tandis que ma mère a vendu des épices pendant une dizaine d'années. Donc moi, je l'ai suivi aussi. Je l'aidais au quotidien, enfin pas au quotidien, mais je l'aidais de temps en temps ponctuellement pendant les périodes de rush. Et ouais, tout était plus ou moins lié sur ça. Donc c'est plutôt une reconversion.
Ok. Et ton mari faisait quoi?
Mon mari, il a fait des études de physique, il est doctorant en physique. Et après, il a bossé dans un groupe d'ingénierie en direction de l'innovation, donc vraiment pour.
Ok. Donc en fait, un secteur hyper différent. Moi, je trouve ça fascinant à quel point le digital a rebattu les cartes et a créé un peu de nouvelles vocations parce que, comme tu dis, vous avez des parcours très différents, mais vous avez cette passion commune, la cuisine. Est-ce que déjà, avant que vous créiez le blog, vous vous étiez posé la question de si vous voulez travailler dans la cuisine ou pas? Parce que parfois, j'ai l'impression qu'on fait le distinguo entre passion et métier, comme si les deux n'étaient pas possibles de conjuguer.
Ouais, nous c'est ouais, on avait vraiment envie de ça et je pense que très vite quand on a commencé à tester des restos, mais bien avant même que le blog ne soit imaginé ou de reprendre l'activité de ma mère, on avait envie de bosser ensemble et on avait envie de bosser dans la cuisine. On savait pas comment et on savait pas ce qu'on pouvait apporter parce qu'on n'est pas chef. Notre volonté c'était pas de cuisiner ou d'ouvrir un restaurant. On avait envie d'apporter autre chose. On savait pas quelle piste explorer et c'est venu en fait assez progressivement. Ça a commencé par d'ailleurs par Instagram, plus
Ah
que
ouais,
ouais, plus que
il y avait
le
Instagram il y
blog.
a 9 ans.
Non. Enfin, je sais pas. Non, nous, c'était.
Ah non, parce que tu m'as dit, vous êtes rencontrés il y a
Non,
9 ans, mais vous n'avez pas
ouais.
commencé from day one.
Non, non,
On se met ensemble, on crée un
non.
bail.
Allez, hop, allez, on imagine Instagram. Non, non, mais assez vite. Oh, je sais pas, moi, j'ai commencé sur Instagram. Lui m'a rejoint pas longtemps après. Et juste, on postait des photos pas ouf, mais juste de nos restos, des tests qu'on faisait. Des recettes, ce genre de choses. Et le blog est venu après. Et souvent, c'est le cas, hein, mais là, c'est des potes qui nous ont dit pourquoi vous faites pas un blog? Ça pourrait être sympa de connaître vos recettes, savoir où manger. Moi, des messages de potes qui me demandent où manger
Ah
pour
ouais,
telle
je
ou telle
connais ça
occasion.
aussi,
Ouais.
ouais. Est-ce que tu
Non-stop.
as une liste sur ton tel?
Oui, ben
Moi, j'ai une liste sur mon
bien
tel.
sûr,
Bon,
j'ai
sur le
un
blog, j'imagine
master,
maintenant.
j'ai sur. Voilà, j'ai.
Ouais,
J'ai
t'es
un
devenue la
fichier
pro de la
Excel, limite, tu
recommandation.
vois.
Ça sert. Et du coup, vous n'avez pas eu du tout ce syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir un peu parfois, justement, je ne suis pas chef, j'ai pas de formation dans la cuisine. Vous vous êtes juste dit, ben, on aime ça, go.
Ouais, bah alors totalement. Après, sur les épices, moi j'ai quand même un peu bossé avec ma mère hein, pour me former. Et puis, on a mis beaucoup de temps avant de lancer Nomi. Parce qu'en amont, il y avait tout un travail de sourcing qu'on voulait refaire. Moi, je l'avais travaillé un peu avec ma mère, mais on avait envie de vraiment de repartir un petit peu de zéro. Pour justement pas être se sentir imposteur, on avait vraiment envie de travailler le sourcing et puis dans notre coin, pas forcément de le mettre en avant, c'était quelque chose qu'on voulait faire à deux bien avant de même communiquer sur ça quoi.
Ouais,
On a mis plus
d'accord.
d'un an et demi pour
Développer l'expertise un
ouais,
peu, quoi.
totalement.
Ok, et quand est-ce que vous avez décidé de quitter vos jobs respectifs pour vous consacrer à Nomi et à vos activités sur les réseaux?
Quand la passion est devenue trop forte, en fait.
Exactement, tu t'es dit, ah, c'est bon, je jette
Allez,
mon
on y va.
chiffon.
Allez,
Go for
c'est
it.
parti. Quand le projet Nomi a commencé à se construire, vraiment, quand on a validé le logo, les packagings, plus ou moins, les mélanges, ça c'était hyper important parce que c'était notre base. Donc quand tout ça était un peu prêt et qu'on se disait bon ben on a besoin de temps en fait pour développer à deux. Charles il est parti de son job un peu plus tôt que moi, 6 mois avant. Et moi j'ai attendu vraiment que ce soit le bon moment et voilà.
Donc vous n'avez pas attendu que ça marche en fait. Parce que parfois on se dit, j'attends entre guillemets de pouvoir en vivre. Vous vous êtes dit, on a vraiment besoin de tout, de consacrer tout notre temps pour le faire décoller. On préfère arrêter avant pour s'y consacrer.
Ouais, parce qu'on donc il y avait toute la partie des mélanges à faire, il y avait toute la partie des packagings à imaginer, il y avait pas mal de boulot de rédaction autour du projet parce que c'est En tout cas, le premier produit qu'on a lancé, c'était pas un produit qui existait. Donc, il y avait aussi toute une petite éducation à faire autour.
Ouais.
Et puis, le blog, on continuait à alimenter. Donc,
ouais.
Il y avait
du taf.
Ouais, on s'est dit, allez, courage.
Ouais. Parce que du coup, là, je me demande, je préfère préciser ce que c'est tout de suite, Nomi, parce que j'imagine que pour les personnes qui ne connaissent pas, ils ont compris qu'il y avait une histoire d'épices. Mais peut-être présente-le, parce qu'encore une fois, je pense que tu le présenteras mieux que moi. Mais j'ai vu ce que c'était au printemps du goût et j'ai trouvé ça très innovant.
Ouais, alors en fait, Nomi, c'est une marque d'épices. Nous, ce qu'on voulait, c'était de simplifier la cuisine des épices au quotidien. Avec différentes gammes d'épiceries fines qu'on peut effectivement retrouver au printemps du goût. Il y en a trois. Des sachets épicés. Donc ça, c'est la première gamme. Donc des mélanges d'épices associés à une liste des courses et une recette.
Ouais.
Des pots d'épices, petit format. 7 cuillères à café, comme ça va pas s'entasser pendant des années dans la cuisine, on sait pas quoi en faire. Et des plus grands sachets craft, une petite collection du quotidien pour assaisonner des salades, des barbecues, des choses comme ça.
Ouais, j'ai vu, ce qui m'a grave interpellée quand j'y suis allée, c'était en fait des sauces pour pâtes sous forme d'épices.
Ouais, alors ouais, c'est un petit mélange.
Ça a l'air génial.
Les suaves, ouais.
Ah ouais.
C'est un mélange de c'est un mélange pour faire des tagliatelles au beurre safrané. Donc en fait, tu infuses un mélange d'épices dans le beurre.
Ouais.
Et ça va faire une sauce pour les pâtes.
Ouais.
Et c'est plutôt cool.
C'est assez révolutionnaire, franchement. Et du coup, pour en venir vraiment au fait de travailler avec son mari, parce que je pense que beaucoup de gens se posent la question, oui ou non, parce que moi je me dis d'un côté, en fait c'est génial, parce que du coup, t'es toujours avec la personne, t'as pas, entre guillemets, à avoir des allers-retours, vous pouvez même travailler dans les mêmes bureaux, c'est quelqu'un qui te comprend, c'est quelqu'un qui te soutient. D'un autre côté, c'est sûr qu'on imagine tous, moi c'est un truc que j'entends souvent, c'est après t'as plus rien à lui dire, tu vois, ou il faut savoir faire après la différence, jamais on s'entend pas, pro, perso, et voilà, est-ce que vous, ça a été une évidence ou vraiment ça a été une réflexion mûrement réfléchie ?
Non, je pense que c'était une évidence. On a toujours voulu faire ça. On a toujours voulu bosser ensemble et on a toujours réfléchi à deux.
Ouais.
Y avait, le dialogue, il est toujours hyper fluide et on n'a pas du tout les mêmes rôles. Et ça, je pense que c'est primordial. On ne va pas marcher sur les plates-bandes de l'autre.
Ouais.
Du coup, moi, je fais confiance à Charles dans son boulot et lui, il me fait confiance dans le mien.
Ouais.
Donc déjà, ça permet de... qui est pas d'engueulade.
Ouais, parce que si vous n'êtes pas d'accord, en fait, c'est la personne qui est en charge du truc qui a le dernier mot entre guillemets, quoi.
Ouais. Et là, non, c'est hyper fluide et je trouve qu'on s'apporte beaucoup l'un l'autre. C'est hyper agréable. Après, c'est vraiment du cas par cas. Je pense que c'est.
C'est sûr.
Ça dépend. On n'est pas obligé de tomber amoureux et de s'associer.
Ouais,
on peut
c'est sûr.
Juste vivre notre vie d'amoureux.
Ouais.
Bon, nous, on avait envie de rajouter ça en plus au à l'équation, quoi.
Ouais, pas de regret.
Pas de regret du tout.
Et du coup, c'est con, mais est-ce que vous êtes posé la question, si vous vous séparez un jour, comment est-ce que vous gérez votre blog, la boîte ?
On ne s'est pas posé la question.
Ouais, bon, en même temps, tant mieux. Parce que j'imagine que tu prévois la clause.
Mais non,
si divorce.
Bon, c'est vrai que c'est forcément des questions qui se posent. Ça fait partie...
C'est partie du jeu, quoi.
Ça fait partie du jeu. On préserve notre couple autant que notre société, notre blog et l'harmonie, tout ça.
Et du coup, au quotidien, comment ça se matérialise ? Est-ce que vous vous dites, la journée on bosse, le soir c'est pour nous ? Est-ce que c'est plutôt semaine vs week-end ? Est-ce qu'il n'y a pas du tout de dichotomie ? Enfin, est-ce que vous avez réfléchi quand même un peu à ça ? En soi, c'est un peu une question qui se pose pour tout entrepreneur. C'est temps pour soi vs taf, quoi.
Ouais. Écoute, au début, pas du tout. Enfin, c'était boulot non-stop. Là maintenant on bosse 6 jours sur 7 parce qu'on est ouvert le samedi, on fait notre atelier, il est en format un peu boutique, donc on est ouvert le samedi pour les gens du quartier. Le soir, ça c'est drôle parce que maintenant qu'on a cet atelier, on a longtemps bossé, on a bossé un peu à la maison, et ça c'était hyper galère de faire la rupture, mais ça c'est, je pense, pour tout entrepreneur. On passe tous par là, pour en parler avec pas mal de potes qui entreprennent, c'est un peu l'enfer parce que tu sors du lit, tu prends ton café, tu vas dans le salon, tu bosses. Si t'as la chance d'être dans un deux pièces, parce que ça peut même être tu bosses dans la même pièce tout le temps, enfin t'as ce truc là. Maintenant, on va au taf et surtout on rentre du taf sans l'ordinateur. Et ça, du coup, ça veut dire que le soir, on essaye d'avoir du temps pour cuisiner, pour lire, pour mater des films, des reportages, des choses qu'on faisait peut-être un peu moins avant. Mmh, donc ça, c'est notre temps. Et le dimanche aussi, on essaie de l'avoir un peu off. Ouais. Même si c'est aussi consacré au blog.
Ouais. Est-ce que tu as remarqué que ça t'a aidé, que ce soit en termes d'attitude ou même de bien-être et de créativité? Parce que j'ai l'impression que ce sont des moments nécessaires dont on ne se rend pas tout de suite compte qu'ils sont nécessaires et que c'est souvent trop tard quand t'as trop donné ou que t'as fourni trop d'efforts et que t'es un peu au bout du rouleau, qu'en fait tu te rendais compte qu'il fallait prendre du temps pour soi ou à deux, quoi.
Ouais, je pense qu'au début, de toute façon, t'es tellement dedans, tu sais pas si ça va marcher ou pas, que t'en as besoin, mais c'est compliqué, quoi.
Ouais, ouais, t'as aussi besoin de te rassurer en te disant que tu mets tout le paquet, quoi.
Maintenant, ça fait 2 ans, je l'impose. Ce temps pour soi. Je l'impose, j'essaie de déjeuner avec des copines, sans parler boulot, sans sortir mon téléphone, même je fais pas de photos. Enfin, il y a ce truc où j'essaie de me recentrer un peu plus sur l'humain et sur le temps pour moi.
Ouais.
Et c'est plaisant, mais c'est parce que pendant 2 ans, ça a été un peu
la machine à tourner
non-stop,
à fond.
Quoi. Ouais. Ouais. Ça reste un non-stop, mais j'essaie de maintenant m'accorder un petit peu de temps, justement, effectivement, comme tu dis.
Sans culpabiliser.
Ouais, et puis pour s'ouvrir à autre chose, et puis la créativité, elle arrive comme ça, hein, c'est clair.
Ouais, c'est en s'aérant l'esprit.
Prendre
souvent
du recul.
Ouais, ouais, c'est pas évident. Et du coup, quand vous avez commencé votre aventure entrepreneuriale, est-ce que vous avez été conseillé? Est-ce que ça a été difficile pour vous de savoir vraiment par où commencer? Enfin, comment ça s'est fait? Parce que c'est toujours une question qu'on peut se poser. Ouais. On a l'idée, maintenant, make it happen.
C'est hyper... Enfin, moi, je trouve que c'est hyper galère. Sur la partie purement administrative et financière, c'est plutôt la partie de Charles. Et c'est vrai qu'on a assez peu été conseillé. On avait une comptable... c'était une catastrophe. Elle nous a aidé à monter notre société, à tout déposer. Elle s'est plantée sur les codes APE. Enfin, on a eu plein de galères comme ça.
Ouais.
Moi, je pense que c'est hyper important de trouver déjà un bon comptable ou une bonne comptable. C'est la base. Et après, c'est tout est galère. Tout est, enfin, tu lances un produit, trouver un imprimeur. Qui est OK pour faire des petites quantités. Parce que quand tu lances un produit, c'est que des petites quantités.
Bah ouais,
et trouver un industriel, ouais. En général, il refuse de te vendre en petites quantités ou alors à des prix hallucinants. Ça, c'est hyper galère. Ouais. Et non, c'est, je pense qu'on a...
Vous avez fait du DIY un peu, quoi. Non, vous avez pas, je sais pas, postulé à des formations entrepreneuriales ou essayé de rejoindre un incubateur.
Non.
Vous avez tout fait tout
ça. Ouais, je pense qu'on avait envie de ça. On avait envie de
mettre
prendre
les
problèmes avec les. Je crois que c'était vraiment ça qu'on avait envie de faire. On avait envie de s'accompagner l'un l'autre. On disait que ça suffisait. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Après, il y a toujours des questions qu'on se pose, mais maintenant, de parler avec des entrepreneurs, ça nous aide. On commence à...
Ouais, mais avant, vous vouliez pas trop être influencé, on va dire. Vous préfériez vous fier à votre instinct.
Et puis, on avait notre idée précise sur le projet. On n'avait pas envie de se faire... court-circuiter, je sais pas, on a besoin de ça.
Ouais. C'est rafraîchissant, je trouve, entendre quand même, parce que je trouve que parfois, là, en ce moment, on a l'impression qu'il faut, tu vois, être big ou qu'il faut avoir des investisseurs. Enfin, tu vois, il y a un peu cette pression de l'entrepreneuriat tout de suite très normée, alors que je pense qu'avant tout, l'entrepreneuriat, c'est large, c'est une interprétation personnelle et que c'est à tout niveau, quoi, à toute échelle, sans règles. Enfin, c'est vraiment le milieu pour moi où il n'y a pas de règles et du coup, vous aviez les vôtres, quoi.
Ouais. Et puis, tu vois, on a un côté humain, on travaille avec des petits producteurs d'épices, on a... Ouais, je pense qu'on avait envie de garder cette taille humaine dans tout ce qu'on faisait. Et on a plutôt envie d'en faire une structure familiale.
Ouais.
C'est, même si on n'a pas repris l'activité de ma mère, il y avait quand même des liens très forts. Donc je pense qu'on avait envie que ça reste comme ça, cette petite entité familiale. Et sans forcément se dire... Alors on a envie d'être big, hein, clairement, mais... pas à n'importe quel prix et ouais. pas n'importe comment.
Ok, ouais, je comprends tout à fait. Du coup, est-ce que vous êtes toujours deux ou est-ce que vous avez embauché des gens? Est-ce que vous comptez embaucher des gens?
Alors ça, c'est le... c'est la question du moment. j'en ai encore parlé tout à l'heure avec Charles. On a une jeune femme qui nous rejoint en stage là en mai.
Ouais.
On est en réflexion d'ouvrir un poste de biz dev, mais... Et on a aussi des gens qui nous aident en free sur la production. Ouais, on se pose la question. Pour l'instant, on sait qu'on est un peu, nous, les meilleurs porte-parole de Nomi. Mais on est à la période où il faut qu'on commence à s'agrandir. Mais
ouais.
encore une fois, pas n'importe comment. Et donc, c'est toute la question. Est-ce qu'on remet les bouchées doubles et on se reprive un peu pour... C'est-à-dire qu'on embauche vraiment peut-être l'année prochaine ou est-ce qu'on prend quelqu'un? Voilà,
ouais.
Ça va dépendre de la personne qu'on trouve.
Ouais, c'est sûr, je pense que c'est un des sujets les plus cruciaux pour une boîte, c'est le recrutement des talents, quoi.
Ouais.
Est-ce que vous avez déjà rencontré des profils? Enfin, comment vous y prenez justement pour être sûr que c'est la bonne personne pour votre équipe?
Ouais, le bouche à oreille, c'est ce qui va, je pense, être le plus intéressant pour nous. On commence à rencontrer des profils. C'est pas évident. Enfin, franchement, le format classique que moi, je pouvais connaître quand j'étais salariée et que je cherchais, je sais pas... quelqu'un pour travailler dans mon équipe ou ce genre de choses, c'était un format genre une annonce sur un site et puis ou ma poule. Ce que j'ai fait là pour Nomi, et j'ai été hyper déçue en fait de ce que j'ai trouvé. J'ai réalisé que par exemple sur Indeed, il n'y a plus de lettre de motivation. Alors je sais pas si c'est une tendance maintenant, plus besoin. Moi j'ai besoin de comprendre en fait pourquoi la personne elle veut bosser avec moi. Je sais pas, je suis pas encore
hyper satisfaite.
Non, alors j'essaie de m'approcher des écoles aussi, je pense que ça peut être hyper intéressant.
Ouais, c'est une grande question que je me pose parce que j'ai des amis qui lancent des startups et qui cherchent justement à recruter.
Ouais.
Et elles me disaient que, en fait, c'est même dans des grosses boîtes et tout, ils me disaient, en fait, c'est assez terrible parce que t'as l'impression qu'aujourd'hui, les lettres de motivation sont assez copiées-collées.
Ouais.
Et en fait, je pense que ça vient d'un double problème, c'est que de la part des jeunes, en fait, ils ont l'impression que il faut envoyer des CV partout pour avoir une chance d'être pris, alors que les boîtes me disent, mais en fait, si ils personnalisent vraiment leur lettre de motivation, leur CV qui nous montre que c'est vraiment chez nous qu'ils veulent être, en fait, c'est comme ça qu'ils vont se démarquer et qu'ils vont être choisis même.
Bah ouais,
donc, en fait, je pense qu'il y a aussi cette... Je sais pas, je pense que ça dépend vraiment des gens, mais où il y a encore certaines personnes qui veulent avoir des noms de grands groupes sur leur CV, alors que toutes les personnes que je connais qui ont travaillé en start-up disent qu'ils ont appris 20 fois plus, tu vois.
Mais ouais, parce que t'as un peu...
T'as un vrai rôle, quoi.
Ouais, puis t'as aussi un peu ce rôle de bras droit, d'une certaine manière, des cofondateurs, donc... t'apprends tellement, enfin, moi c'est pour ça aussi que je mets du temps à recruter la personne, parce que là ce sera quelqu'un qui va m'accompagner moi sur la partie bizdev. J'ai envie de trouver quelqu'un avec qui il y a un sens, enfin quelqu'un qui je sais pas, un feeling, quelque chose comme ça,
et
puis qui comprenne le projet et qui a envie de s'investir, tout en se disant que si on grandit, cette personne elle va avoir des responsabilités, donc je pense que c'est important de bien choisir. Et en tout cas, quand on postule, d'argumenter un petit peu.
Ouais, c'est ça. Montrer que vous aimez la boîte pour laquelle vous postulez, c'est tout ce que les boîtes veulent, quoi, en fait.
Des cas comme ça, des personnes qui m'appellent, ils n'ont même pas regardé ce que c'était, la boîte. Alors, il y a une bonne démarche, hein, parce que déjà, il y a un coup de fil, donc une volonté d'être bizdev, de ne pas avoir peur de téléphoner, mais juste fais l'effort supplémentaire d'aller sur le site 2 secondes, parce que...
Ça se ressent en plus très vite, quoi.
Ah bah, c'est tout de suite, hein.
C'est tout de suite.
Vous êtes lequel, vous, déjà?
Et puis, alors, du coup, est-ce que je vends, en fait? Non, je sais pas.
Bon, ouais.
Va sur le site,
rapidement. Ça sera marqué. Et du coup, je me demande, vu que t'es aussi blogueuse et que t'es présente sur Instagram et tout, est-ce que t'as pas pensé à, entre guillemets, faire ce que j'appellerais du scouting, mais sur les réseaux? C'est-à-dire que je trouve qu'il y a, notamment dans la food, il y a beaucoup de profils de personnes qui qui montrent leur amour justement de la nourriture, qui montrent, on va dire, leur personnalité à travers ce que certains appelleraient les nouvelles cartes de visite, quoi, qui sont leur profil Instagram. T'as pas pensé à contacter directement, toi, des personnes pour leur demander si peut-être elles seraient intéressées? Parce que je sais que j'ai des amis entrepreneurs qui font ça.
Qui a pour
du cold call, pour recruter un peu, quoi. Ouais.
Non, effectivement, c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé, donc merci.
Ah bah de rien.
je le fais en revanche beaucoup. Je le fais beaucoup avec les pros.
Ouais.
Des chefs dont j'adore la cuisine, mais que j'ai pas pu rencontrer parce qu'ils étaient pas forcément là, ou même des auteurs, des journalistes. Je leur fais un message via Insta, j'essaie de voir un peu si ça peut être sympa de se rencontrer. Mmh. Et sur ce côté-là, je trouve que c'est une passerelle qui est hyper intéressante sur
c'est
le commercial.
Vrai. Ouais.
Parce que je trouve qu'il y a une part d'humain que t'as pas forcément. Et puis, t'as pas forcément tout de suite sur un coup de fil de prospection, ce genre de choses.
Ouais, je suis tout à fait d'accord, ouais.
Ça, j'aime bien. Après, ouais, effectivement, ça peut être une piste. Après, c'est un taf de malade parce qu'il faut aller. Dénicher la perle.
Voilà, c'est sûr. En fait, c'est juste que moi, je sais que dans mon secteur, ouais. Je connais un peu, tu vois, les profils. Mmh. Donc, c'est un peu plus facile dans le sens où même, tu sais, Instagram recommande des comptes en fonction de ce que tu suis déjà. Donc, c'est possible. Après, c'est certain que c'est pas non plus mince affaire. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les comptes de food. Hein. Ah. Alors, je trouve que non, mais les réseaux a révolutionné, tu vois, l'envie qu'on a. Parce que combien de fois je vais bugger devant genre une pâtisserie ou un plat qui a l'air à tomber par terre. Ouais. Et je trouve qu'on le dit beaucoup pour la mode, où t'as cette incitation à l'achat qui est très vraie, qui est très immédiate. Tu vois la fille porter le truc, t'as envie de l'acheter. Mais moi, là, encore une amie m'a tagué dans un croissant praliné tout à l'heure. Enfin, je vais aller à la boulangerie aller bouffer ce croissant praliné. Donc, c'est non négligeable. Du coup, en en parlant, je me demande si vous... c'est quelque chose que vous essayez de faire parce que c'est encore plus dur avec les épices, dans le sens où ben c'est pas les épices, ça peut pas être sexy en soi, tu vois, ça peut pas être du food porn. Par contre, l'assaisonnement en tant que tel peut rendre un plat très food porn. Est-ce que c'est un truc que vous réfléchissez ou pas?
Totalement.
Ok.
Et nous, ce qu'on veut avec Nomi, c'est d'avoir une approche plus contemporaine de la cuisine des épices. Donc c'est ce qu'on a fait avec Gratiné. On a vraiment essayé de créer des recettes qui pouvaient être hyper sexy d'une certaine manière avec des épices, détourner des classiques pour que ça reste quand même hyper rassurant et pas trop compliqué.
Ouais.
Parce que c'est souvent les épices, il y a plein de messages contradictoires qui sont pas forcément hyper vendeurs. Les épices, ça, c'est souvent l'exotisme, c'est la malle aux épices, le retour des Indes, c'est un peu, je trouve ça un peu limite. C'est aussi de la cuisine hyper exotique, donc des tagines, des tikka masala, des choses comme ça, mais pas forcément. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer des recettes hyper simples, hyper gourmande, avec des épices, mais sur de la cuisine du quotidien, du partage. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire aussi bien avec Gratiné qu'avec Nomi, de faire des passerelles en disant, bah voilà, là vous avez une super recette, je sais pas moi, de tagliatelle au beurre safrané, c'est hyper simple à faire, ou une blanquette de saumon, on va pouvoir ajouter des épices, d'essayer de faire ce truc-là et de faire des photos aussi qui essaient de vendre un petit peu nos produits, donner envie.
Du coup, vous êtes formé à vraiment pas mal de métiers, quoi. C'est dingue avec les réseaux, je trouve qu'on va se former à la photo, à la communication,
à l'écriture.
Maintenant, vous, au commercial, enfin, je trouve que c'est... Ouais. En même temps, d'un côté, c'est cool, je trouve. Enfin, on est là pour apprendre dans la vie.
C'est passionnant. Et on se dit, tous les métiers, là, qu'on... J'y ai pensé il n'y a pas longtemps et je me dis, mais si même si Nomi se termine, ce que j'imagine pas, on a tellement appris de métier.
Ouais.
C'est... C'est un gain en fait incroyable.
Ouais, et ça c'est ce que je dis pour toutes les personnes peut-être qui écoutent ce podcast et qui se posent la question. En fait, allez-y si vraiment vous sentez que c'est un truc que vous voulez faire et que vous allez, ça va toujours rester dans votre tête, parce que ce qui retient pas mal de personnes, c'est la peur de l'échec. Mais qu'est-ce que l'échec si tu prends pas en compte tout ce que ça t'a apporté en fait? Pour moi, le succès, il n'est pas uniquement commercial. Bien sûr, ça compte, tu vois, et c'est gratifiant.
Bien sûr, bien sûr.
Mais la progression que tu peux avoir en termes personnels, et même les boîtes le disent, ils préfèrent des gens qui sont passés par des startups où ils ont eu plein de profils ou qui ont essayé quelque chose plutôt que des personnes qui n'ont même pas essayé. Donc, après, en plus, je trouve que pareil, pour moi, en fait, on ne peut pas échouer si jamais on est toujours à l'écoute du consommateur. J'ai l'impression que vous n'avez pas eu à pivoter, que votre idée était claire dès le début et que c'est celle qui a marché.
Ouais.
Mais en soi, si notre première idée ne marche pas tout de suite, ben, c'est pas grave, il faut écouter le feedback, faut apprendre, itérer et vous finirez par trouver ce qui marche. Quoi. Et ça désacralise beaucoup, je trouve, la peur de se lancer.
Mm. Ah bah, nous, on a écouté hein, parce qu'on a, on a fait une semaine de pré-lancement il y a 2 ans où on proposait donc, notre première gamme, les sachets épicés, donc le mélange d'épices, la liste des courses, la recette.
Ouais.
Et on l'avait fait, on a fait une petite pré-vente, donc des prix un peu moins chers. C'était l'occasion de tester sur un plus grand nombre de recettes. Et les retours, c'était que ça piquait.
D'accord.
Alors que épicé ne veut pas dire pimenté, donc on était dégoûtés. Parce que nous, en plus, je pense qu'on a un seuil de tolérance qui est peut-être plus haut que d'autres. Après, le piment, c'est vraiment du cas par cas. Et on avait 2 recettes, genre ça arrache, quoi. On était dégoûtés, on a retesté tout ça. Et puis au final, on a réajusté notre recette, on a écouté les retours clients. Et puis bah, maintenant, il n'y a plus aucun problème.
Ouais, c'est ça. Il ne faut pas prendre la critique constructive comme un échec. Quoi.
Ben non, au contraire. Au contraire, c'est un précieux conseil, en fait.
Ouais, totalement. Totalement.
Si on sait l'accepter, c'est banco, en fait.
Ouais, totalement. Et vous avez eu cette chance d'avoir une communauté qui était prête, on va dire, curieuse à découvrir. Ouais. Est-ce que ça s'est vraiment fait facilement le pont entre le blog et l'entreprise en soi, parce que je pense que c'est aussi un challenge qui peut se poser, convertir des lecteurs en clients, ou est-ce que ça a plutôt été une autre cible?
Ah non, c'est la même cible, hein, je pense. Après, on les force pas. Hein. Nous, on conseille des épices, on conseille des recettes avec des épices. Après, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent les acheter chez Ducros, ils le font. Hein. S'ils veulent après travailler sur des produits de petits producteurs, ce genre de choses, ils savent aussi que nous, on a ces produits-là à proposer. La passerelle, elle était assez évidente. On a créé en fait l'Instagram de Nomi 6 mois avant de lancer Nomi officiellement, en faisant du teasing avec des petites idées recettes autour des épices, ce genre de choses. Et on commençait aussi à en parler un peu via nos 2 Instagram, donc plutôt côté blog.
Ouais.
Donc il y avait une sorte de petit teaser qui se faisait et ça a plutôt bien pris comme ça. Parce que c'était une sorte de déclic chez nos lecteurs, genre ok, on comprend mieux pourquoi les épices, quel était le cheminement gratiné versus Nomi.
Ouais. C'était un choix de ne pas garder le même nom.
Ouais, okay. Totalement. Totalement, parce qu'encore une fois, on a des lecteurs qui ne vont pas forcément acheter nos produits. Ouais. On ne veut pas que ce soit un blog de marque. On veut vraiment que ce soit un blog avec notre univers.
Ouais.
Et pouvoir présenter d'autres producteurs. Alors, pas forcément d'épices, mais des artisans dans tous les domaines qui peuvent nous plaire.
Ouais.
Tout en gardant aussi une identité un petit peu différente.
Je vois ce que tu veux dire, ok. Du coup, je me demande aussi, dans votre quotidien, comment est-ce que vous avez des journées types ou à quoi ça ressemble des journées? Est-ce que vous faites en sorte de bien, calculer les temps où vous consacrez telle tâche à telle tâche? Est-ce que vous êtes plus libre? Est-ce que vous avez des conseils, même, pour les personnes qui nous écoutent? Est-ce que vous avez découvert qu'en fait, le matin, ça marchait super bien? Tu vois, est-ce que tu as des espèces de routines qui marchent?
Alors, moi, je suis assez... je crois beaucoup en une sorte de petite routine personnelle. Je trouve que c'est... quand tu es entrepreneur, ça te permet d'organiser ta journée et de ne pas te retrouver submergé de taf sans savoir comment. Du coup, je suis assez partisane de la liste. Je commence toutes mes journées par la to-do list en essayant de tout faire dans ma journée. Ça c'est hyper important et c'est vraiment la base. On prend un café, on fait la liste chacun de son côté parce qu'au final on est assez indépendant. Moi j'ai beaucoup de rendez-vous à l'extérieur parce que j'ai pas mal de testing avec des chefs, donc je suis pas mal en mouvement. Charles lui il est plus côté production, côté contact producteur, donc lui il est beaucoup sur place. Et est-ce qu'on a des journées types? Plus ou moins. Charles, il va commencer par checker les stocks, voir les commandes qu'on a en cours, ce qu'il faut recommander, briefer les personnes avec qui on travaille sur la production, sur les tâches à accomplir, booster aussi un petit peu le site, essayer de toujours améliorer. Donc, il est beaucoup là-dessus. Et puis, sans compter la partie administrative.
Qu'on adore chiant, tous.
Ta et tout ça. Et moi, ça va plutôt... Moi, j'essaie de m'imposer ouais, des un nombre de personnes que je vais contacter pour faire du commercial. D'avoir forcément un nombre de propositions écrites par jour. Ça, c'est des trucs que moi, je m'impose en tant que commercial et biz dev.
Ok.
Pour être sûr que ça tourne bien.
Ok. Donc, t'as pas de... Ouais. Parce qu'on entend beaucoup, je crois que j'en avais parlé dans un épisode, tu vois, les Miracle Morning.
Ouais. Alors, j'ai fait ça.
T'as fait, parce que tu vois, moi, j'ai toujours cette hésitation entre le... Il y a des conseils à prendre, mais il y a des routines qui juste vont pas à tout le monde, quoi.
Non, alors du matin, t'es du matin ou pas. Enfin, moi, je suis assez matinale. Je l'ai fait pendant 2 mois, le Miracle Morning. Alors, c'est hyper cool, hein, mais...
C'est très réglé, quoi.
Ouais, c'est très réglé. Après, je pense que si tu veux vraiment réussir, tu dois être très réglé. Je pense que ça, c'est... T'es obligé de t'organiser. T'es obligé d'organiser et d'apprendre la rigueur, c'est hyper important. Je pense qu'il faut piocher dans tous ces conseils de développement personnel qui peuvent arriver, qui sont hyper intéressants parce que on est de plus en plus confronté à des questions genre mais c'est quoi mon but dans la vie, c'est quoi mes passions, c'est quoi mes hobbies, qu'est-ce que j'ai envie de développer, est-ce que je veux avoir un projet. Donc je pense que c'est bien de piocher en fait ce qui est bon pour soi sans se mettre trop de contraintes parce que on reste humain, on a des faiblesses, on peut ne pas forcément être parfait. Et essayer de trouver ce qui est le plus sain pour soi, en fait. Donc, moi, je conseillerais toujours le développement personnel. Donc, ces lectures-là qui peuvent être hyper intéressantes. Ou moi, j'écoute pas mal de livres audio aussi. Ça me permet, dans les transports, ouais, de me construire un petit peu un nouveau programme de développement personnel. Mais... Alors, je pense qu'il faut faire attention.
Ouais.
Ne pas se mettre trop la pression.
Ouais, se dire que c'est pas la parole sainte, quoi. Non. Surtout qu'en plus, on entend tout et son contraire en soi. Ouais. C'est comme les régimes, malheureusement. Tout le monde prêche un peu sa paroisse.
Il faut s'écouter avant tout, je pense.
Est-ce que toi, il y a des... Ouais, est-ce que toi, il y a des tips, des conseils de développement personnel qui t'ont particulièrement servi ou même un livre que t'aurais à recommander qui t'a aidé?
Alors, des livres, peut-être pas forcément, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment tiré de mes expériences personnelles.
Ouais.
Mais j'aime bien me fixer des petits challenges et d'essayer d'éviter la procrastination. Ça, c'est le truc que je développe le plus en ce moment. Donc, d'essayer de me mettre des petits objectifs facilement atteignables parce qu'on veut tous être la meilleure personne possible, la meilleure face de soi-même, mais il faut pas non plus mettre des challenges insurmontables parce que sinon c'est l'enfer. Enfin, tu passes ton temps à dire je suis qu'une merde, j'y arrive pas. Donc plutôt me dire bon bah tiens aujourd'hui j'ai ça et ça à faire. Ça peut être tout, hein, genre je sais pas faire des photos d'identité pour mon nouveau passeport, le truc que tu repousses parce que t'as jamais le temps. Bon bah demain je le fais. Et puis, demain, j'ose appeler tel chef dont je suis trop fan et j'aimerais trop bosser avec lui, mais je sais pas, j'ose pas, je le fais. De se mettre des petites missions comme ça, ça marche bien. Parce que du coup, tu finis ta journée, tu fais un petit bilan et tu dis, bah, en fait, j'ai réussi les missions que je voulais.
Ouais.
Et ça, c'est tout simple. Hein, mais déjà, de se mettre des tout petits challenges et de les accomplir... Ça donne encore plus envie de fixer plus.
Et confiance. Ça aide à gagner confiance, je pense.
Ben ouais. Et te dire que c'est pas si insurmontable que ça.
Ouais. Ça me fait penser à ce que j'avais entendu sur un podcast aussi un peu de développement personnel. C'était de se fixer 4 objectifs par mois. Et en fait, c'était un peu dans ta veine, mais plus justement dans le côté ambitieux. C'était 4 choses pour lesquelles on pensait échouer. 4 choses qui nous font peur. Parce qu'en fait, tu vas forcément échouer dans beaucoup d'entre elles. Mais en fait, 1, t'as rien à perdre. 2, il y a des chances qu'en fait, ça se réalise alors que comme tu t'étais auto-censuré, t'allais pas le faire.
Ouais.
Et que 3, ça relativise l'échec énormément.
Mais totalement.
Et tu vois, en parlant, je me dis, mais pourquoi je le fais plus? Et en soi, bon, j'ai toujours un peu l'excuse, j'essaie de me trouver l'excuse du temps où c'est un peu dur pour moi de tout faire en ce moment. Mais je pense vraiment, quand j'aurai fini mon année, je vais me refaire ça parce que... Je pense que c'est encore en France le plus dur, la barrière de l'échec ou la peur du non, où tu vois, en fait, il n'y a pas mort d'homme, quoi.
Mais non.
Donc, au mieux, ça arrive, au pire, t'as essayé, quoi.
Ben, c'est ça.
Donc, puis, c'est vraiment une bonne idée.
Si tu crois en ta démarche, à la limite, la personne en face ou ce que tu vas développer, ça va marcher parce que tu y crois, en fait. C'est juste l'auto-persuasion, c'est, on va dire, 80% du taf, en
ouais,
fait.
Ouais. Parce que toi, en fait, tu n'étais même pas commerciale à la base. Tu nous as dit que tu as fait des études plutôt artistiques.
Ouais.
Est-ce que ça s'est forgé au fur et à mesure, ou est-ce que juste ta passion, on va dire, a suffi?
Bah, ouais, j'étais. Je pense que j'ai toujours aimé être en contact avec les autres. Et j'ai fait cinéma au départ pour mater des films. Franchement, j'avais aucune idée du job que j'allais faire.
Ouais.
Et je trouvais ça cool d'analyser des films, tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas, et je suis pas restée longtemps dans cette voie, mais j'étais plutôt dans des métiers où il fallait communiquer, fallait voilà, mettre en contact, j'adorais ça quoi. Et j'ai et quand j'ai rencontré Charles, j'ai vraiment, je me suis mis en tant que, enfin je suis devenue commerciale. Ça m'a J'ai appris assez vite, en fait, c'est venu naturellement. J'ai été formée par une amie maintenant qui n'est plus du tout dans ce domaine-là non plus, mais qui, elle aussi, débutait. Et on a appris, on a appris sur le tard, d'une certaine manière. Et je pense qu'il y a un côté naturel qu'il faut garder dans le commercial. Moi, j'ai pas fait d'école, ce genre de choses, mais je pense que l'empathie, je pense que le fait de pas avoir peur, d'oser passer un coup de fil, tout ça, c'est les qualités les plus importantes
carrément.
Métier de commercial.
Et surtout, bah, comme tu l'as dit, en fait, ne pas se censurer parce qu'on n'a pas fait l'école qu'il faut.
Bah,
soit rien ne remplace l'expérience, quoi.
Ah bah,
et la volonté
c'est
d'apprendre.
Évident, c'est évident.
Ouais.
Après, c'est... par contre, je pense que c'est important de toujours continuer à apprendre. Tu vois, toujours lire en fonction du domaine dans lequel tu es, de continuer à lire, à regarder des reportages, à échanger, à rencontrer d'autres entrepreneurs, à poser des questions. Parce que ça, par contre, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est ça qui t'enrichit le plus.
C'est vrai.
Après, c'est très personnel. Moi, j'étais pas une grande bûcheuse, donc j'étais plus école de la vie. Après, c'est aussi très cool de faire une école qui va pouvoir t'apprendre énormément. C'est du cas par cas, mais je pense qu'il faut vraiment...
Il y a du bon à tirer dans les deux, dans tous les cas.
De toute façon, quand t'es entrepreneur, t'as pas le choix de faire du biz dev, même si c'est pas ton job, t'es obligé de le faire.
Tu seras amené à le faire.
Que t'aies fait d'école ou pas, donc tu vois, quand t'es artisan, tu dois quand même vendre ton saucisson, donc bon, bah, je sais pas, enfin...
Ouais, learn by doing.
Ouais, à fond.
Ça me pensé là, vu le fait que tu reparles de Charles, comment vous êtes rencontrés?
Moi, j'étais dans la musique quand on s'est rencontrés.
Ouais.
Et j'avais créé sur Facebook un groupe qui s'appelait les Lundis Concept, que je tenais avec une copine. Et tous les lundis, on déposait un challenge. Donc, c'était un challenge musical via YouTube.
Ouais.
L'idée, c'était de balancer des clips sur un thème, une décennie, ce genre de choses, le plus cool ou grotesque possible. Et après, on votait. On votait dessus, et Charles s'est retrouvé invité par une amie d'amis à ce challenge-là du Lundi Concept. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à la remise de prix des Lundi Concept.
Ok, donc il faisait de la musique aussi.
Non, rien à voir.
Ah,
non,
okay.
J'étais juste passionnée de musique, de blind test et ce genre de choses. Donc,
ouais.
Non, c'était juste un petit groupe Facebook pour rigoler.
Ouais, c'est marrant. J'aime bien savoir comment les histoires se forment. Du coup, vu qu'on arrive à la fin du podcast, est-ce que tu pourrais nous dire les meilleurs conseils qu'on t'ait donnés, ou ceux que tu aimerais donner à nos auditeurs de l'école de la vie?
Y en a plein, mais en tout cas, c'est de... Entreprendre, c'est bien, mais c'est pas toujours une vocation, c'est pas obligatoire. Je pense que quand on décide d'entreprendre, c'est important de se poser les bonnes questions. Moi, quand je vois, comme pas mal d'autres amis, t'as pas forcément de week-end, t'as pas forcément de temps libre, t'oublies les RTT, t'oublies au début un salaire, ce genre de choses. Donc c'est éprouvant, faut garder confiance en soi, faut prendre du temps aussi pour soi. C'est pas une vocation obligatoire d'être entrepreneur. Je pense qu'il faut que ça soit, comme tu le disais, et comme on en parlait, une passion avant tout. Te dire, je vais le faire parce que j'ai une passion qui m'anime. Ça, c'est le plus important. De ne pas hésiter à poser des questions, de continuer à réfléchir toujours à s'améliorer. Et faire des listes.
Faites des listes. Ça sauve. Et la dernière question que j'aimerais te poser, c'est la question de signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie?
Prendre le pouvoir de sa vie, c'est le matin, quand tu te réveilles, tu sais pourquoi tu y vas. Et tu sais, le soir, pourquoi tu l'as accompli. Pour moi, c'est ça, prendre le pouvoir de sa vie.
Ok, super, c'est une super belle définition. Merci, bah, merci beaucoup Marie-Lou d'être venue sur InPower. Où est-ce qu'on redirige nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus sur Gratiné ou sur Nomi?
Alors, sur Nomi, on a un site, ouais. nomi-épices.fr. On a aussi quasiment toute notre gamme disponible au printemps du goût.
Ouais.
Donc, c'est un bon moyen d'aller se balader, découvrir des petits artisans et des produits.
C'est vraiment un très beau lieu.
C'est...
Je pourrais passer l'après-midi à vouloir tout acheter. Oh, j'ai envie de goûter ça, j'ai envie de goûter ça.
Encore la semaine dernière, j'ai fait des folies. voilà. Très bon moyen de découvrir nos épices et le blog gratiné.fr ou via notre livre Le Bar et Épices aux éditions Marabout.
Ok, super. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast avec aussi les comptes Instagram respectifs pour saliver visuellement. Merci beaucoup, Marie-Lou.
Merci à
bientôt.
À bientôt.
Merci de s'être joint à nous pour cet échange avec Marie-Lou. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant l'épisode autour de vous et sur Instagram pour qu'on puisse le voir et le reposter. Je vous rappelle qu'InPower a désormais son compte Instagram où je partage les dernières actualités, @InPowerPodcast. Je vous remercie chaudement et on se retrouve dès la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'InPower.